Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Ce qui m'amène à vous parler, évidemment, de l'opération propreté qui a été déclenchée par la ville de Montréal. Et là, on se dit, est-ce qu'ils vont prendre l'appel, le balai, comment ils vont gérer ça? C'est en cours actuellement, ça a commencé hier. Et ce matin, on peut voir des équipes de la ville qui s'affairent à nettoyer. Pour tout dire, la ville est franchement dégueulasse. Et je peux parler de la ville, je peux parler des villes, je peux parler des autoroutes. Il y a des gens qui m'ont envoyé des photos en fin de semaine de bordures d'autoroutes. C'est comme si on n'avait aucune conscience quand on jette par-dessus bord tout ce qui traîne, tout ce qui nous dérange. C'est comme si on voulait se débarrasser. On parlait avec notre collègue Frédéric l'autre jour de ces gens qui vont mettre n'importe quoi dans ces cloches de vêtements qui sont aménagées pour recevoir donc des vêtements pour remettre à des gens qui en ont besoin pour pas cher, etc. Puis on met des pneus, puis on met toutes sortes de cochonneries là-dedans. Hier, je me promenais sur la rue Saint-Laurent à Montréal. Là, tu remontes ça vers le nord. C'était sale, mais ça n'a aucun sens. Et on peut blâmer la ville de pas faire ça de façon très efficace. Mais il y a toujours bien quelqu'un qui laisse traîner ses cochonneries. Il y a un comportement de citoyen qui est absolument répréhensible. Ce sont des porcs qui vident n'importe quoi, n'importe où. Puis après, on se tourne vers la ville en disant « Mais qu'est-ce que vous attendez pour ramasser? » Qu'il y ait des débris restants d'hiver, là, de roches, de feuilles, ça existe. Mais des poubelles qui débordent, des sacs qui sont éventrés, puis vous le savez autant que moi. Alors, on va en reparler ce matin, mais officiellement, on est dans le ménage du printemps. Ils en ont pour un mois à rendre la ville propre. Puis je partage avec vous un courriel d'une auditrice qui me dit « J'aimerais signaler la pollution par déchets et détritus qui jonchent le long des routes. La situation aux abords des autoroutes est franchement dégueulasse. Le long de l'autoroute 40 et la 20, sur toute la portion de l'ouest de l'île, le long de la 13, de la 15, de la 440, de la 640, j'ai un beau-frère suisse qui est venu nous rendre visite et il me demandait si cette situation était chose courante et obligé de répondre oui. Et les gens en reviennent pas de la saleté, de ces déchets qui traînent partout. Maintenant, parlons de la situation à Gaza. D'abord, une frappe israélienne qui a tué 7 travailleurs de l'organisation humanitaire d'aide alimentaire qui s'appelle World Central Kitchen. Ça a été confirmé par l'organisation. Du côté israélien, on dit qu'il y a une enquête au plus haut niveau qui a été instituée pour comprendre le pourquoi. Comment se fait-il que des gens qui sont des humanitaires, qui travaillent avec acharnement pour fournir de la bouffe aux Gazaouis, ont pu perdre la vie de cette façon-là. La Maison-Blanche a dit « Nous avons le cœur brisé ». On apprend que ses employés sont originaires d'Australie, de Pologne, du Royaume-Uni. Un citoyen aussi qui aurait la nationalité canadienne. Et évidemment, vous comprendrez que World Central Kitchen a décidé de suspendre ses opérations. Ce qu'on a comme information jusqu'à maintenant, c'est que l'équipe se déplaçait à bord d'un convoi, 2 véhicules blindés qui portaient le logo de l'organisation et aussi un autre véhicule léger. Les humanitaires étaient identifiés également. Alors, on a beaucoup de difficultés à comprendre l'erreur, entre guillemets. Et avec Jean-François Lépine, tantôt, on fera le point sur les 6 mois de cette guerre à Gaza. Il semble y avoir une impasse. Ils ont détruit quoi les 3/4 des infrastructures. Il y a eu cette opération également au cours de la fin de semaine contre en Syrie, alors qu'on a touché le consulat, en fait, Oui, c'est le consulat de l'Iran à Damas, faisant 11 morts, dont 7 gardiens de la Révolution. Et sur le plan politique, on peut dire que le premier ministre Netanyahou, en arrache, devient de plus en plus impopulaire. Une guerre qui s'éternise et on voit pas comment ça peut également se terminer. Alors avec Jean-François, on va faire le point. Et puis du côté de Port-au-Prince, encore une fois, c'est le vide politique. Après 3 semaines, toujours pas de gouvernement de coalition. Et on rapportait durant le week-end des échanges nombreux de coups de feu, notamment autour du palais présidentiel. Je voyais ce matin que l'agence Reuters rapportait des citoyens qui allaient se cacher pour se protéger. Cette rivalité entre les gangs qui donne lieu à des affrontements dans les rues, avec des impacts, pénurie d'aliments, de carburant aussi. Et je vous le disais au début, toujours pas de pouvoir politique stable. Le premier ministre démissionnaire est toujours à Porto Rico. Et on se demande à quel moment l'élite politique va s'entendre pour former un gouvernement. Il semble que c'est carrément impossible. Je veux revenir aussi sur l'histoire de ces deux jeunes, ces ados de 14 et 16 ans qui ont perdu la vie dans un accident. Mais au préalable, ces deux avaient volé une voiture, étaient armés et ont tiré en direction de deux véhicules conduits par d'honnêtes travailleurs qui se rendaient au boulot jeudi matin très tôt. Heureusement, ils n'ont pas été blessés. Mais vous imaginez la frousse de voir un pare-brise être fracassé puis de sentir qu'on te tire dessus. L'enquête est menée par le BEI. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a beaucoup de questions et il n'y a pas de réponse. On peut se dire qu'est-ce qu'ils faisaient dehors à cette heure-là? Qui sont-ils? Bénédicte nous l'a dit, puis il y a des policiers qui nous l'ont dit. Au moins un des deux était pas mal connu des policiers. Puis je comprends que pour les parents, c'est une tragédie. Tu perds ton fils de 14 ans. Je vois le témoignage du père de Mehdi Moussaoui, qui dit que j'ai pas pu le sauver, il en profite pour envoyer un message aux autres parents. Ces jeunes qui sont attirés par les gangs, par le pouvoir, par l'argent, par la reconnaissance. On peut faire toute une liste. Et c'est un enfant, dit-il, qui pourrait être le fils de n'importe qui. Puis à un moment donné, il a changé par ses fréquentations. Et c'est sûr que le père s'en veut, se blâme. Tu dis, où est-ce que je l'ai échappé? Puis comment ça se fait que mon fils perd la vie là au terme d'une aventure criminelle comme celle-là? J'ai pas de réponse à ça ce matin. Mais c'est sûr que ça s'ajoute à l'inquiétude des citoyens concernant la criminalité dans son ensemble puis les gestes violents gratuits. Et on va se le dire, là, il y en a de plus en plus des jeunes qui font la promotion de la violence. Est-ce que c'est une initiation? Est-ce que... Pourquoi ils ont fait ça? Je le sais pas, mais ce sont pas des inconnus. Et il y a des collègues d'ici qui m'ont fait parvenir la page du GoFundMe qui a été lancée par des proches pour amasser de l'argent pour la famille. Là, on me dit que c'est bloqué ce matin. J'ai toujours beaucoup de difficultés avec les GoFundMe, mais celui-là en particulier. Je dis pas qu'il faut annoncer, là, mon fils était dans un gang ou fréquentait des gens, puis il est mort au terme d'une opération policière. Mais de ne rien dire, puis de présenter l'ado comme un gars de 14 ans qui a pas vécu assez longtemps pour réaliser ses rêves, je trouve ça assez moyen. Puis je pense qu'il y a des gens qui l'ont pas mal signalé, ce qui fait que ça semble bloqué ce matin. Puis on va parler avec le patron des enquêtes criminelles à la police de Montréal, parce que, on le sait, dans le cas des vols de voitures, beaucoup de jeunes, parce que les sentences sont pas très élevées. Puis en plus, ben ça leur permet de s'affirmer puis d'aller chercher de l'argent. Donc, on va regarder ça. Puis il y a encore des gens qui m'ont parlé d'incidents dans le métro. Il s'agit pas de faire peur au monde, là, puis de dépeindre la réalité avec le crayon noir forcé, là. Mais veut pas, quand vous entrez dans une station de métro puis vous voyez certains personnages qui s'y promènent, c'est pas très, très rassurant. Alors, on va regarder ça tantôt, évidemment, avec beaucoup d'intérêt. Très bien. Il y a une dépêche qui vient d'entrer. On parlait des jeunes et, pour certains, du niveau de violence. Il y a un jeune de 12 ans qui a été arrêté après avoir fait feu dans une école primaire en Finlande. C'est arrivé dans les dernières heures. C'est en banlieue d'Helsinki. Et il y a au moins un enfant qui a été tué. Donc, le tireur a 12 ans. Pas besoin d'en ajouter plus. Sondage ce matin. C'est un sondage assez intéressant de Léger, qui est publié dans le Journal de Montréal, concernant les tarifs d'électricité. Pourquoi c'est intéressant? D'abord parce que les Québécois sont fidèles à eux-mêmes. Là, ils sont conscients que l'électricité, on en a besoin et il va falloir investir pour en produire davantage. Alors, que dit le sondage? Les Québécois sont d'accord pour changer leurs habitudes de consommation d'électricité. Mais, ils ne veulent pas d'augmentation de prix. S'il y a augmentation de prix, ils comprennent que ça pourrait coûter plus cher, par exemple, durant l'heure de pointe, et que les gros consommateurs, ceux qui ont des grosses maisons, ben payent plus cher. Donc, plus tu consommes, plus ton prix finit par augmenter. Ça, ils sont d'accord avec ça parce que ça touche quand même une minorité. Mais l'effort qui est proposé et qui est demandé, ils sont prêts à le faire. Puis là, je disais ce matin que près du quart des répondants sont déjà en mode économie d'électricité. Ils ont baissé le chauffage à 19 degrés et prennent des douches qui durent 4 minutes. Je ne sais pas s'ils partent le lave-vaisselle à 3 heures du matin, mais de toute évidence, ce message-là commence à donner des résultats, puis ils sont d'accord pour des crédits d'impôt puis des programmes. Autrement dit, tant que tu ne touches pas à leur facture ou à votre facture directement, vous êtes d'accord, théoriquement, de prendre des mesures concrètes pour aider à économiser de l'électricité. Alors, on peut voir ça ce matin. C'est dans le Journal de Montréal. Un mot pour dire également que le monde politique et les Québécois en général ont manifesté leur tristesse suite à l'annonce du décès de l'ancien ministre québécois Benoît Pelletier, qui est mort à l'âge de 64 ans. Les commentaires sont unanimes sur son intelligence, son rayonnement, sa capacité de rendre des choses complexes comestibles pour la plupart des gens, sans prétention, avec, je dirais, grande humilité. Alors, il a enseigné, il a été député et ministre également des Relations intergouvernementales canadiennes dans le gouvernement de Jean Charest. Je voudrais vous parler maintenant du gouvernement fédéral. Là, on assiste depuis quelques semaines à un striptease budgétaire du gouvernement libéral. C'est rare qu'on voit ça, mais on annonce un programme à la fois, un programme qui souvent va directement dans les compétences du gouvernement provincial ou des gouvernements provinciaux. Alors, on l'a vu en matière de soins dentaires, on l'a vu pour les médicaments. Là, la nouvelle trouvaille, alors, puis la semaine passée, la crise du logement, j'oubliais ça, le bail national, des espèces de normes pan-canadiennes, puis bon. Tu dis, mais qu'une charte. On sait que M. Trudeau aime beaucoup les chartes, là. Une charte des droits, mais bon. La nouvelle affaire, c'est un programme pour financer les repas dans les écoles. On se dit très bien, personne peut être contre la vertu. On ne peut pas tolérer que des enfants n'aient pas mangé. Il y a déjà des programmes qui existent, le club des petits déjeuners, bon. Mais est-ce que c'est le mandat du fédéral de se lancer dans cette opération alors que la presse nous dit ce matin que le prochain budget de Mme Freeland, la semaine prochaine, là, ou dans deux semaines plutôt, le 16 avril, ça va ressembler à un déficit de pas loin de 50 milliards. Et malgré des compressions et des efforts, là, l'argent leur sort par les fenêtres. Puis là, c'est un programme après l'autre. Ils sont en train de fondre dans les sondages. Et là, M. Trudeau essaie de remonter. Et je suis pas certain que ça donne le résultat souhaité. Les gens sont quand même pas naïfs à ce point-là. Des programmes qu'on invente, là, on sait pas trop comment ça va marcher. Et là, soudainement, on est partout. On est dans le logement. On est dans la bouffe, dans les écoles. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et M. Trudeau vit tellement dans ce qu'on appelle le pays des licornes, quand vient le moment de parler d'argent puis de dépenses. Vous avez vu les images de Mélanie Joly en fin de semaine qui se fait intercepter sur la rue par quelqu'un qui veut lui parler assez, disons, fermement du conflit entre Gaza et... à Gaza, entre Israël et le Hamas. Comment se fait-il que la ministre canadienne des Affaires étrangères ne fait pas l'objet d'une protection rapprochée alors qu'il y a un conflit qui polarise tout le monde ici. Les actes de haine, l'antisémitisme, on a vu une prolifération de manifestations du genre depuis le début de ce conflit. C'est un conflit qui divise la population. Et notre ministre se promène sans protection? Ça n'a aucun sens. Quand le premier ministre du Canada se déplace, ils sont je sais pas combien à venir à la place Bonaventure, le chien renifleur passe dans le studio, c'est le grand déploiement. Et la ministre canadienne des Affaires étrangères n'a pas un garde du corps à côté d'elle, il n'y a personne qui fait une protection rapprochée. C'est invraisemblable. C'est invraisemblable. Puis ils ont beau dire, rappelez-vous Mme Freeland qui s'était fait pourchasser dans un ascenseur, là. Puis encore là, on se disait, mais comment ça se fait qu'il n'y a personne avec elle? Trop cher. Trop cher? Un conflit qui polarise autant et vous avez celle qui incarne la politique étrangère du Canada qui n'est pas protégée. Je vais vous dire une chose. Puis on lance toutes sortes de programmes de dépenses. On a de l'argent, mais on n'a pas de l'argent pour protéger les élus. On n'a pas d'argent pour protéger ceux qui incarnent le pouvoir. C'est pas la personne comme la fonction aussi qui est visée par ça. Rapidement, des cas de personnages qui s'inventent des histoires, c'est le cas de Bordelot, qui s'appelle Christian Bordelot. C'est l'histoire de Tristan Péloquin dans la presse ce matin. Le gars se présente comme un génie de l'immobilier qui a fait des cours à Harvard, à l'école d'économie de Londres. Il est allé à Oxford. Très, très ostentatoire. Il se promène avec des véhicules de luxe. Grosse maison. Il fait des trucs sur YouTube où on le voit au gym, par exemple. Tout ça pour vous dire qu'il fait l'objet de poursuites de plusieurs créanciers qui l'accusent de vol, carrément, puis d'avoir menti sur qui il est. C'est un autre cas. Ça reste à prouver devant le tribunal, là. Mais des gens qui s'inventent un personnage, c'est qui suivent un cours par correspondance dans une prestigieuse université, puis qui te font croire qu'ils ont le diplôme, puis qui réussissent à siphonner de l'argent, à faire des transferts, à se présenter comme des maîtres de l'immobilier. Puis là, tu vois la photo des gens qui sont tombés dans le piège, là, qui l'ont financé parce que il y a une grosse maison, puis il y a bien des gros chars, puis il a l'air très prospère, fait que c'est sûr qu'il fait de l'argent. Or, on s'aperçoit que c'est pas toujours le cas. Et lui, évidemment, dément tout ça, mais ce qui est intéressant, juste un dernier volet là-dessus, c'est qu'à une époque, M. Bordelot avait publié, c'était à l'époque de la commission Charbonneau, des textes d'opinion dans Le Devoir pour dénoncer la corruption et les failles éthiques au Québec. Et il avait mis sur pied une entreprise de consultation pour créer une certification, justement, en gouvernance et pour démontrer que la corruption pouvait être combattue par des meilleures pratiques. Il avait convaincu Jacques Duchesneau, qui était à l'époque avec la CAQ, d'appuyer cette patente-là. Jacques Duchesneau s'en mord les doigts. Il est assez estomaqué d'apprendre que ce gars-là, évidemment, n'a pas eu le succès. Puis, tu sais, c'est le genre qui invente des patentes, qui réussit à convaincre une couple de personnes d'embarquer, mais ça dure jamais longtemps. Et notre ami Jacques Duchesneau qui dit « Je suis sous le choc » en apprenant ça, puis il s'est servi d'une lettre de recommandation de Jacques Duchesneau pour aller comme ça convaincre des gens. Fait que, tu sais, il est assez habile, le gars. Puis là, évidemment, il prétend que tout ça est inventé pour nuire à sa réputation. Et puis, je vais terminer sur ce jugement en Floride concernant l'avortement. Les gens qui pensent qu'il n'y a plus de menace au droit et à l'accès à l'avortement, vous vous trompez. La Cour suprême de Floride vient de dire qu'il est tout à fait légal d'interdire les avortements après 6 semaines de grossesse. Et il y a bien des femmes qui ne réalisent même pas après 5 semaines qu'elles sont enceintes. Alors, imaginez le poids que ça donne. Ça fait en sorte aussi que des femmes qui vivent en périphérie de la Floride, dans des États plus au sud, où il y a des lois rétrogrades qui ont été adoptées, se dirigeaient vers la Floride. Ben là, théoriquement, ils pourront pas le faire, sauf que il y aura, lors de l'élection, un référendum sur la question. Et ça mobilise les démocrates en Floride, parce que la Cour dit, on protège pas ça, mais on permet que les citoyens se prononcent, puis on verra quel sera le choix des Floridiens sur la question de l'avortement.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
« Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
À Montréal, la semaine dernière, deux adolescents, 14 et 16 ans, armés dans une voiture volée, ont fait feu en direction de véhicules conduits par des inconnus, des gens qui allaient tout simplement travailler. Ils se sont poussés, ont eu un accident sur Saint-Zotique et malheureusement, ils ont perdu la vie. Vous comprendrez que leurs proches, leurs parents sont bouleversés, mais que les citoyens demeurent inquiets. J'en parle ce matin avec James Paxao, qui est l'inspecteur du service des enquêtes criminelles du SPVM. Monsieur Paxao, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Je sais qu'on peut pas parler du cas, c'est mené, l'enquête est faite par un autre service.
Absolument.
Mais je veux qu'on parle des jeunes et de la violence. On comprend mal que des jeunes de 14 et 16 ans soient armés et se promènent de cette façon-là. Est-ce qu'il y a autant d'armes qui circulent puisqu'il y a autant de jeunes impliqués?
Malheureusement, il y a beaucoup d'armes qui circulent en ce moment, mais depuis quelques années là, sur le territoire qui arrive. Je vous donne juste un exemple. Mes équipes dans l'Est, depuis la nouvelle structure du 2 octobre, mes équipes d'enquête juste dans l'Est de Montréal, on a saisi 49 armes à feu, qui est majoritairement des armes de poing, toutes des armes illégales qu'on a saisies dans des enquêtes. On parle de 6 mois. Là. C'est beaucoup d'armes qu'on a réussi à enlever de la rue. Il y a beaucoup d'armes qui circulent. Puis c'est beaucoup de jeunes aussi qui ont accès à des armes à feu.
Quand vous me dites des jeunes, donnez-moi des exemples de jeunes là qui avaient des armes de poing comme ça que vous avez pu saisir.
Mais ça joue des exemples. Je peux vous parler en général, ça joue entre 14. Quand on parle de jeunes, on parle jusqu'à 25 ans à peu près là, dans nos chiffres. Je sais pas si vous vous rappelez, on avait parlé des vols de véhicules. On parle toujours du même tranche d'âge, là, 12-24. Mais c'est vraiment à 14-15-16, là, on commence à voir des jeunes dans les autos volées qu'on saisit, les policiers sur la route, entre autres, ou lors des perquisitions, on trouve des jeunes entre 14 et 24 qui ont des armes à feu dans les véhicules. C'est tellement payant, les véhicules volés. Ils sont capables de se procurer des armes par la suite. Parce que les armes sont quand même chères sur la rue. Ils sont toujours autour de 5 000 $ pour acheter une arme sur la rue. Donc, ils se financent des armes par le vol de véhicules, entre autres. Là, mais il y a beaucoup d'autres crimes où ils vont se financer des armes. Ça fait toute partie de la culture de violence. La culture de comme vous dites, des gangs de rue, mais qu'on appelle de criminalité organisée. Pas du crime organisé, on parle de la criminalité organisée. Il y a des gens qui appellent ça de la criminalité désorganisée.
Ouais.
Mais c'est par les structures de jeunes. Puis, on le voit, c'est un phénomène qui arrive des États-Unis. Là. Ça a commencé dans les années fin des années 60. Là. Puis on le vit encore aujourd'hui. Où ce que...
Mais j'ai vu des gangs, des premiers gangs de rue, les Master B, là, qu'on a connus dans le temps. Bon, ils opéraient, puis c'était... Il n'y avait pas de structure, ou en tout cas très, très limitée. Mais là, on a affaire à des gens qui se promènent. Puis je sais, on ne parlera pas du cas direct, mais parlez-moi de Saint-Léonard. Il y a combien de gangs à Saint-Léonard, ou plus ou moins, là, qui sont... en confrontation?
Mais des gangs qu'on connaît dans la grande région de Montréal, on est plus d'une vingtaine de différents groupes dans toute la grande région de Montréal. Dans l'Est, là, on peut parler peut-être de 6-7 différents groupes qui sont dans l'Est, mais qu'il y a des conflits entre certains groupes. Il y a des conflits dans les groupes de l'Est, on a des conflits entre groupes entre Laval puis Montréal. Il y a des conflits dans l'Ouest, dans le centre-ville. Puis ces conflits-là perdurent dans le temps. Des fois, c'est parti par pas grand-chose, là, parce qu'on parle beaucoup maintenant. La place qu'ils utilisent, c'est sur les réseaux sociaux. Ils vont se narguer sur les réseaux sociaux. On appelle ça, le terme anglophone, c'est du net banging, où ce qu'ils vont se narguer, ces réseaux sociaux. J'ai déjà vu des vidéos où ce que les groupes se promènent dans le secteur opposé, armés. Ils se filment pour démontrer qu'ils sont là. Ils marquent le nom de la rue, puis ils l'envoient publiquement pour démontrer à l'autre gang, on vous cherche, on est là. Puis c'est ces conflits-là qui existent. Là.
Mais l'expression des auditeurs qui revient souvent, c'est « OK, qui se tirent entre eux autres, là, puis... » Bon, c'est pas souhaitable, là, mais on comprend que ça peut arriver. Mais quelle est la motivation qui amène à viser au hasard des gens, d'après vous?
Évidemment, c'est très rare qu'on voit des gens au hasard qui sont visés. Quand on parle vous avez sûrement entendu parler du terme « scoring ».
Oui.
C'est quelque chose qui existe depuis longtemps. C'est une façon, parce que pour être dans les gangs,
forme
faut
d'initiation,
comprendre...
Là.
C'est le terme « initiation » utilisé des fois, ça peut arriver, mais c'est vraiment, c'est des jeunes qui veulent faire partie des groupes. Donc, quand on sait un adolescent cherche toujours à faire partie d'un groupe d'amis, ça fait partie de l'adolescence. Malheureusement, il y en a qui veulent faire partie des groupes criminalisés, qui sont très rares. On dit tout le temps, c'est une minorité de jeunes qui font une majorité d'événements violents. Okay? Donc, c'est peu de jeunes-là veulent faire partie des groupes. Puis, pour faire partie d'un groupe de gang, on appelle ça les trois R. La réputation, le respect, puis la riposte. Ils veulent faire partie des gangs, donc ils veulent avoir cette réputation-là de violence pour pouvoir être respectés puis faire partie des cellules de gangs de rue. Tu sais, la structure des gangs est différente que la structure du crime organisé. On parle vraiment cellulaire. C'est vraiment des jeunes qui se rassemblent puis font des types de crimes ensemble. Là. Puis là, on le voit, c'est des vols d'auto, mais il y a plusieurs types de crimes. Et c'est tout.
Qu'est-ce qu'ils font comme crime à part les vols d'auto?
Ben, il y a la fraude, il y a le proxénétisme, les vols d'auto, la vente de drogue, la vente d'armes. Donc, ça, c'est vraiment les points majeurs. Là.
Est-ce qu'ils vont jouer sur le terrain des plus grosses organisations? Est-ce qu'ils sont utilisés par des structures comme les motards ou le crime organisé italien, par exemple?
Absolument. C'est ce qui est malheureux. Nos groupes de crime organisé utilisent des jeunes pour plusieurs raisons. Premièrement, ils vont les utiliser pour faire de l'intimidation. On voit souvent des coups de feu qui sont tirés sur des immeubles. Ça, c'est de l'intimidation, puis on paye les jeunes gangs pour le faire. On a des incendies criminels, des cocktails Molotov. Souvent, on va payer des jeunes pour le faire. Puis on passe à travers de ce qu'on appelle maintenant des courtiers. C'est des membres de gangs plus vieux qui ont des liens avec le crime organisé, puis qu'eux autres, ils se font donner un contrat, puis ils vont aller chercher des jeunes qu'ils connaissent pour faire ces crimes-là. Puis le jeune qui fait un crime pour le membre de gang, le OG qu'on appelle l'Original Gangster, le vétéran, qui recrute pour faire ce crime-là, qui les paye un petit peu, mais ça lui donne encore plus de réputation, ça lui donne encore plus ce phénomène-là là, d'être vraiment violent et de pouvoir continuer à faire partie des gangs.
Quand tu commets des crimes à partir de l'âge de 13, 14, 15 ans,
oui.
Est-ce que vous voyez, vous avez de l'expérience, là, vous en avez vu sur le terrain, oui. Est-ce qu'ils finissent par sortir de ce monde-là ou encore c'est comme un plan de carrière puis ils vont grandir dans l'organisation puis devenir des criminels professionnels?
Mais avec le temps, oui, c'est pas tout le monde. Malheureusement, quand ils commencent dans la criminalité autour de 14, 15 ans, on le voit, ils lâchent l'école. Et là, ils tombent dans la criminalité parce que c'est l'appât du gain, on se le cachera pas. Comme le crime organisé, c'est l'appât du gain. Mm-hmm. C'est l'argent, mais comme jeune, c'est aussi le respect puis le faire partie d'être plus gros que la personne comme telle. Là, donc oui, il y en a qui deviennent des criminels de carrière, absolument, on le voit, mais pas tous. Tu sais, on n'a pas de chiffres, on les a jamais comptés, là, mais on peut dire, tu sais, à peu près 80% des jeunes qui ont fréquenté des gangs, ils s'en sortent.
Est-ce que c'est vrai que, sans doute porté par les réseaux sociaux, ces jeunes qui tombent dans la criminalité ont pas beaucoup de limites, c'est-à-dire que tirer parce que puis y a du monde autour, c'est pas grave, de lancer un cocktail Molotov puis peut-être blesser, tuer des gens, se retrouver dans un restaurant bondé, c'est comme s'il y avait, pas dire un code d'éthique là, mais c'est y a pas de limite à ce qu'on peut faire.
C'est l'impulsivité du crime. Évidemment, c'est un peu la différence qu'on voit entre le crime organisé puis les jeunes reliés à la criminalité organisée. C'est vraiment toujours d'aller chercher le respect. Donc, ils vont faire des crimes de violence vraiment par hasard. Ils vont croiser quelqu'un qui se rappelle qu'il est en conflit. C'était pas planifié. Puis là, s'ils sont armés, ils vont faire une
réplique. Peu importe qui est autour.
Ils le voient pas. Ils sont plus jeunes.
Il y a une garderie sur le coin de la rue, c'est pas grave.
Évidemment, ils sont plus jeunes. Ils comprennent pas toutes les... C'est des enfants de 14, 15, 16 ans, là. T'sais, ils comprennent pas tout ce qui se passe. Ils sont vraiment rendus dans ce monde-là. Ils sont rendus là-dedans. Puis on se le cachera pas avec les réseaux sociaux, avec le phénomène qui est quasiment glorifié dans les médias, qui est glorifié... Pas les médias. Les médias glorifient pas. C'est pas ça que je veux dire. Mais on le voit, là...
Non, mais ça circule sur les réseaux sociaux. Ça c'est partagé, donne, c'est vu.
Lorsqu'ils font un crime, le jeune, puis en plus, il passe des nouvelles, ça lui donne encore plus cette gloire-là puis ce respect-là. Malheureusement, c'est le défaut. C'est le désavantage de cette médiatisation-là.
Vous parliez tantôt de ce nombre de gangs là, qui, plus ou moins, selon qui sont dans l'est, dans l'ouest de la ville, est-ce que c'est vraiment une appartenance régionale? J'habite Saint-Léonard, je fais partie d'une gang à Saint-Léonard. J'habite à Montréal-Nord, je fais partie d'une gang. Est-ce que ça fonctionne comme ça?
Jeune, oui. Quand ils commencent à fréquenter les gangs, là, on parle des gangs émergents. Là, on parle de 12, 13, 14, 15 ans. C'est vraiment local. Mais quand on parle de nos gangs, nos OG, nos vétérans, là, il n'y a plus vraiment... Ils vont faire partie d'un groupe qui est comme reconnu dans un endroit, mais ils sont partout. Tu sais, nos gangs de rue de Montréal, là, sont vus à Toronto, sont vus à Calgary, sont un peu partout, là, au Canada, là, à cause des crimes. Exemple, à Calgary, ce qu'ils amènent là-bas, c'est vraiment le proxénétisme. À Toronto, là, en ce moment, ce qu'on voit, c'est aller chercher les véhicules volés, aller vendre des stupes. Le proxénétisme outil qu'ils amènent plus loin, tu sais. Ils vont recruter des jeunes filles puis ils vont les amener là-bas. Mais là, comme qu'on voit, c'est encore plus payant, faire des vols d'auto avec peu de sentences. Donc là, beaucoup de jeunes se virent vers les vols de véhicules.
Il y a des parents qui vous écoutent ce matin, là, qui ont des ados. Quels conseils vous pourriez leur donner? Qu'est-ce qu'ils doivent observer chez leur ado?
Ce qui est important, il faut commencer très jeune. Il faut commencer très jeune à voir les amis de nos enfants, des invités à la maison, de connaître avec qui ils se tiennent, de regarder qu'est-ce qu'ils regardent sur ces réseaux sociaux. Là, c'est quoi qu'ils vérifient? C'est d'être proche jeune, puis il faut que le jeune comprenne. Parce que c'est pas tous les jeunes qui veulent devenir gang. Il y en a qui en deviennent par des circonstances. Ils se tiennent avec des amis, ils se tiennent avec du monde pas trop kosher, si vous me permettez l'expression. Puis là, ils se retrouvent à faire un crime sans le vouloir. Fait que c'est pour ça que les parents, des fois, sont très démunis face à ça. J'ai arrêté beaucoup de jeunes dans ma carrière. Puis à chaque fois que j'ai parlé aux parents, quand ils étaient rendus dans la cellule, le jeune de 15 ans, il me disait tout le temps la même chose. « Monsieur l'agent, je sais plus quoi faire. » Mais il faut commencer jeune. Il faut que le jeune comprenne que s'il arrive de quoi jeune, il est capable d'aller voir ses parents sans se faire chicaner.
Moi, j'ai un père qui m'a écrit après cet événement-là, là, parce que tu dis, OK, ils ont 14-15 ans, qu'est-ce qu'ils font dans la rue à cette heure-là, là, 4-5 oui. heures du matin? Il dit, mon gars, j'ai pas de contrôle dessus. Absolument. Il est toujours dehors. Oui. Je sais pas à quel moment il va rentrer. Il a été arrêté 2-3 fois par la police. Absolument. Il sait plus quoi faire.
Tu sais, il y a des fois, c'est l'arrestation qui est le besoin dans certains cas qui sont rendus hors de contrôle. Ou ce que là, ils vont être pris en charge obligatoirement par le système, par le DPJ. Ils vont avoir des conditions. Puis là, tranquillement, pas vite, on va travailler avec. Mais comme je vous dis, s'ils sont capables de l'âge le plus jeune, de vraiment s'assurer de suivre c'est avec qui ils se tiennent, c'est qui leurs amis, d'être ouvert pour eux, ça va aider. Mais on le voit, j'en vois. Je vois des jeunes qui veulent vraiment devenir gang. Eux autres, là, ils partent, puis ça va être difficile de les arrêter, on se le cachera pas.
Donnez-moi un exemple. Je veux pas de nom, évidemment, là, mais ça ressemble à quoi quelqu'un qui a 12-13 ans veut vraiment être gang? Comment ça se traduit, ça?
Mais ça se traduit par, il va vouloir s'impliquer, il va se tenir avec les groupes. Il les voit sur les réseaux sociaux. Tu sais, nos groupes de gang ont des sites, ils ont des channels YouTube, ils font des vidéos de rap, gangster rap, ils deviennent des légendes, puis les jeunes les voient, puis ils veulent devenir comme eux. Fait qu'ils vont vouloir se tenir avec eux, ils vont se coller sur eux, ils vont vouloir participer avec eux. Puis eux autres, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'à un moment donné, ils font partie d'un crime. Et là, le service embarque. Là.
Est-ce que c'est l'appartenance ethnique qui est l'espèce de point commun? C'est-à-dire, on a tous connu le crime italien, les Dubois, les motards qui c'est blanc à 100%. Est-ce que c'est la même chose chez les gangs? C'est-à-dire, affiliation basée sur l'ethnie?
C'est pas l'affiliation basée sur l'ethnie. Ce qu'on voit, c'est vraiment des phénomènes de gang comme on voit aux États-Unis. Ça a commencé, comme je vous disais tantôt, des années 70, les Blood, les Crips. On a aussi d'autres groupes qu'on voit moins ici à Montréal, mais qui est très actif aux États-Unis. Les MS-13, les 18th Street. Ça, c'est deux grands phénomènes de gang qui sont glorifiés dans les réseaux sociaux, là. Et c'est ça qu'on voit ici. Mais oui, on peut voir des concentrations de différentes ethnies qui se tiennent ensemble, qui ont peut-être les mêmes mœurs, le même langage, puis ils sont des amis d'école.
Fréquentent le même coin, puis...
Fréquentent le même coin. T'sais, on voit les gangs émergents, c'est souvent des amis d'école. Puis ils se tiennent ensemble, puis là, ils commencent, puis là, ils sont influencés par... Puis encore une fois, c'est très rare. C'est une minorité de jeunes qui font une majorité de crimes. Puis, encore une fois, on le voit, il y a à peu près 80% des jeunes qui vont avoir fait des choses qui vont s'en sortir plus tard. Puis là, on a comme un 20% qui deviennent des vétérans, des OG avec le temps.
Très instructif. Merci beaucoup d'être venu ce matin.
Merci, M. Arquin.
James Paxao est inspecteur du service des enquêtes criminelles du SPVM.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan.
Officiellement, depuis hier, c'est l'opération Ménage du printemps à Montréal. Et Dieu sait que la ville en a grand besoin. Philippe Sabourin de la Ville de Montréal est avec nous. Monsieur Sabourin, bonjour.
Oui, bonjour.
Est-ce que ce qu'on vient d'entendre pour la fin de la semaine, ça modifie un peu votre plan? C'est l'appel ou le balai?
C'est vraiment le problème qu'on a au mois de mars à avril, surtout début avril. Là. Les gens ne le savent pas, mais on utilise, par exemple, les petits tracteurs trottoirs, là, hein, ce qui nous permet de passer la neige. C'est les mêmes appareils qu'on utilise pour la propreté. On les modifie, on rajoute des buses, un réservoir d'eau à l'arrière, mais ce sont les mêmes appareils. Donc, quand on commence l'opération 1er avril, parce que là, on a le retour des signaux, tu sais, qui nous disent « ne vous stationnez pas un côté de la rue à la fois », ça, c'est pour faire de la propreté. On a donc besoin de nos tracteurs, mais on en garde toujours en réserve au cas d'avoir une surprise. Là, on le voit, là, plusieurs centimètres de neige pourraient être reçus cette semaine. On va avoir besoin de l'équipement. Donc, on a gardé une partie de l'équipement, une partie de la flotte pour justement faire du tasser de la neige puis rajouter de l'abrasif si jamais c'était nécessaire.
OK. Pourriez-vous me décrire un peu le plan de match de l'opération? Vous commencez par quoi? Les balais, vous ramassez les poubelles, il arrive quoi? Là, ça commence de quelle façon?
Concrètement, là, ça se fait souvent en convoi. On va d'abord utiliser des jets d'eau pour, avec le petit tracteur, là, tasser la petite roche puis les contenants sur du côté de la rue. Ça va empêcher aussi qu'il y ait une formation de poussière dans l'air. Ensuite, on va passer avec le balai pour récupérer ce qu'on a tassé de côté et on va revenir avec un aspirateur sur le trottoir. Et on finit le travail avec des gens qui travaillent en manuel qui vont aller là où nos équipements peuvent pas aller, puis qui vont faire un travail de maintien hein, au niveau de la propreté, donc ce qu'on appelle nos brigadiers de la propreté. Donc, c'est dans cette séquence-là qu'on le travaille. En tout et partout, ça représente 600 véhicules qui appartiennent à la ville. On a aussi des contrats avec des entrepreneurs privés et on a besoin de 1000 employés pour faire cette opération-là. C'est une opération d'envergure, ça, il y a pas à dire.
Ça prend combien de temps nettoyer la ville?
Pour se rendre dans la dernière ruelle, on va dire 6 semaines. Mais on va voir tout de suite les impacts. Hier, j'étais avec l'équipe sur Peel, près de René, Peel René Lévesque, Gauchetière, dans le secteur de la station. Là, ça avance très rapidement. On a de bons équipements, des employés qui savent s'y prendre. Donc, ça va aller vite, surtout pour les artères commerciales. Là où on a les terrasses, Ville-Marie ont des terrasses à partir du mois de à la mi-mars à peu près. À plusieurs arrondissements, les terrasses, ça commence à partir du 1er avril. Dès qu'il y a le premier rayon de soleil, les terrasses, on sent l'affluence, puis ces rues-là, on va s'assurer que ça soit de fait en priorité, là, que ça soit propre pour recevoir les gens qui vont avoir envie. La saison estivale, elle dure pas longtemps, donc on veut en profiter pleinement.
Mais moi, j'ai remonté Saint-Laurent hier, et je dois dire que, un, c'était sale, là, mais deuxièmement, ce qui est assez frappant, c'est pas qu'il y ait de la roche, qu'il y ait des restants d'hiver, de feuilles, mais c'est de voir des sacs à poubelles éventrés.
Oui.
C'est de voir des déchets là insoupçonnés dans une rue comme Montréal. Tu dis, mais ça fait quoi, là?
C'est vrai. Puis c'est une problématique qu'on a dans les rues résidentielles aussi. Là où on est franchement pas bon, là, puis tout le monde, puis je m'inclus là-dedans, là. Des fois, je fais des gaffes aussi. Maintenant, on a le bac brun, hein, puis on l'utilise vraiment pas à pleine capacité. Les gens qui participent au bac brun, ce qu'on appelle les matières organiques, là, c'est à peu près un taux de 30%. Ce qui fait que dans notre sac de poubelle, on devrait plus avoir des choses qui attirent la vermine. Les matières organiques devraient plus être dans votre sac poubelle. Toutes les matières récupérables, là, avec la collecte du recyclage, ça devrait plus être dans le sac poubelle non plus. Autrement, il y a un risque que ça soit éventré. Il y a des gens qui vont aller chercher des choses qui ont de la valeur, comme les consignes, par exemple. Puis, donc, ce qu'on demande aux citoyens, c'est, d'une part, respecter l'heure et le moment du dépôt au niveau de la collecte. Ça va nous donner un bon coup de main. On va diminuer les risques que votre sac soit éventré. Ensuite, ça serait agréable que tout le monde se mette au bac brun parce que le sac à poubelle n'attirera plus de vermine parce qu'il n'y aura plus d'odeur dans votre sac.
Tout ça est vrai. Mais en même temps, est-ce que parfois les opérations de collecte, on met pas trop de pression, ce qui fait qu'on lance les sacs, il y en a qui se ramassent à côté du camion, personne les ramasse, puis ça reste là pendant un bout de temps?
Ben, c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. En même temps, moi, comme citoyen, quand je dépose mon sac en bordure de chemin, c'est comme s'il m'appartient plus. J'ai plus de responsabilité. Il est là, puis quand même, qu'il se passe quoi que ce soit, je vais pas aller récupérer ou ramasser. Fait que si tout le monde portait un petit peu plus attention aux collectes, voyait à ce que le sac soit bien retiré, puis si c'est pas le cas, ben on va ramasser, puis on porte plainte, on appelle le 311, on utilise l'application Service aux citoyens. Nous, on va faire le suivi auprès de l'entrepreneur, mais c'est de petits gestes comme ça qui vont faire la différence. La ville de Montréal, on a des employés pour faire le travail, on a l'équipement, on a le budget, mais on y arrivera pas tout seul. Parce que même si on arrive à faire tout le grand ménage, on fait maison nette du jour au lendemain, si les gens ne nous aident pas à maintenir l'état de propreté dans nos rues, dans nos ruelles, dans nos places publiques, ben on y arrivera pas. C'est un travail collectif. Oui.
Monsieur Sabourin, merci, bonne journée.
Merci.
Au revoir. Philippe Sabourin est évidemment le porte-parole de la Ville de Montréal. Maintenant, ça va faire 6 mois que c'est la guerre entre Israël et le Hamas. Ça semble être l'impasse. On a vu en fin de semaine, évidemment, ces travailleurs humanitaires qui ont été touchés par un tir. 7 personnes ont perdu la vie. Jean-François Lépine est avec nous. Bonjour Jean-François.
Bonjour Paul.
Alors, quand on fait le bilan depuis 6 mois maintenant, c'est une guerre qui ne semble pas vouloir finir et c'est devenu très clairement une catastrophe humanitaire.
D'autant plus que l'armée israélienne mène cette campagne-là, ça va faire 6 mois le 7 avril, et on a détruit, disons, l'équivalent des 3/4 des infrastructures de toute la bande de Gaza, où habitent 2,3 millions Palestiniens. On voit que les combats continuent, même les combats sont revenus dans le nord, parce que l'armée israélienne a annoncé la fin d'une opération de 2 semaines autour de l'hôpital Al-Shifa. Là, j'en parlerai dans 2 secondes, mais simplement pour revenir à cette frappe contre des véhicules identifiés carrément d'une organisation qui s'appelle World Central Kitchen, qui a été créée par un chef cuisinier espagnol, José Andrés. C'est un organisme qui fournit des repas aux Palestiniens alors qu'on en a un besoin fou. Et ils sont victimes d'une frappe. On dit que l'armée israélienne prend ça très au sérieux. Peut-être parce qu'il y a des étrangers parmi les victimes. La majorité des victimes sont des étrangers. Je rappelle, Paul, qu'il y a des travailleurs humanitaires palestiniens qui meurent chaque jour à Gaza, des hôpitaux qui se font détruire en grande partie, des véhicules de transport comme des ambulances qui sont frappés par des tirs. Il y a énormément de questions qui se posent sur les respects par l'armée israélienne des lois de la guerre dans cette partie du territoire de Gaza. Et les véhicules donc se déplaçaient et avaient en principe averti les Israéliens de leur déplacement. Un organisme humanitaire, 7 travailleurs, dont un travailleur qui est un Canado-Américain d'origine, on ne connaît pas encore les noms et tout ça, mais c'est une scène extrêmement grave. Et encore une fois, hier, donc l'armée qui arrête une opération qui a duré depuis 14 jours, j'ai vu des images. Il y a des journalistes comme un correspondant du Washington Post qui se sont rendus. C'est assez inouï. Ils se rendent en blindés. Les Israéliens, ils ne voient rien. C'est des blindés complètement fermés. Ils arrivent sur place. On leur laisse 10 minutes pour voir l'ampleur de la situation. Le journaliste raconte qu'il arrive sur place. Ça sent la mort, dit-il. Il y a des cadavres partout. Il dit, dans l'hôpital, dans les locaux de l'hôpital qu'il voit, il n'y a rien qui n'a pas été détruit. Tout est détruit, les moindres objets, On imagine la force des combats, mais surtout, je pense, moi, la force de la destruction, comme si on détruisait pour détruire. En tout cas, moi, je lance vraiment beaucoup de questions sur ce sujet-là. L'hôpital Al-Shifa, là, c'est l'équivalent de 1/3 de toutes les ressources hospitalières de la bande de Gaza. Pourquoi? Parce qu'on le voit, quand on voit des photos aériennes, d'ailleurs, il y a des journaux en fin de semaine qui ont publié des photos d'avant la guerre. Un immense complexe où il y a à peu près 10 d'édifices, un immense terrain. C'est pour ça qu'il y avait 6 000 personnes parmi une grande majorité de blessés qui étaient réfugiés sur ce terrain-là. Puis pendant 14 jours, les Israéliens ont mené une bataille sous prétexte que les miliciens du Hamas étaient revenus et avaient trouvé refuge à nouveau dans les structures hospitalières. En tout cas, beaucoup de questions à poser sur ces choses-là. Et le taux de destruction qui est absolument... Quand on parle d'impasse, c'est que à force de tout détruire, comment se fait-il qu'on n'arrive pas à dire à un moment donné on a atteint nos objectifs? Mmh. Et c'est ça qui est probablement en crise. Aujourd'hui, l'autre question, je vois dans les moniteurs qu'on a ici en studio que le secrétaire d'État américain Blinken est à Paris aujourd'hui parce que les Français s'inquiètent d'une possibilité que le conflit s'étende. La semaine dernière, les Israéliens ont procédé à des bombardements très loin à l'intérieur du Liban. Et puis, on apprend aussi qu'ils ont détruit par une frappe toute la section consulaire de l'ambassade d'Iran à Damas, qui est d'ailleurs située tout à côté de l'ambassade du Canada. Il y a peut-être des gens qui ont été assez surpris par la frappe en fin de semaine. Tout ça avec le résultat qu'on aurait tué un haut gradé de ce qu'on appelle les gardiens de la Révolution. C'est une partie importante des forces armées iraniennes. Ça prouve d'abord qu'il y avait des gradés supérieurs iraniens en Syrie. Ça prouve à quel point ils jouent un rôle dans cette section-là. Mais en tout cas, bref, on dit qu'il y a des négociations. M. Blinken est peut-être en train de faire ça aussi en partie à Paris, mais aussi au Caire pour que le conflit, en tout cas, tombe à un mode cessez-le-feu. Mais visiblement, on a l'impression qu'il y a une impasse dans cette guerre-là qui n'aboutit à rien et qui détruit tout sur son passage.
Parlons du premier ministre Netanyahou, oui, parce que c'est important. Après 6 mois de guerre, et on le dit, il n'y a rien qui avance, il n'y a pas de cessez-le-feu. Politiquement, il s'est affaibli aussi durant ce conflit, c'est assez clair, avec les Juifs orthodoxes, non-orthodoxes. Bref, il y a un paquet d'enjeux, puis il y a des gens qui commencent à manifester ouvertement contre le gouvernement.
De plus en plus, il y a eu encore une fois une manifestation très importante samedi à Tel Aviv. Ensuite, ça s'est déplacé en face du Parlement à Jérusalem. Et là, ça va se poursuivre jusqu'à mercredi, donc jusqu'à demain, en principe. Des gens qui demandent maintenant ouvertement le déclenchement d'élections anticipées, la démission du gouvernement. Il y a vraiment un taux d'insatisfaction pour plusieurs raisons. D'abord, l'impasse dans la guerre. Deuxièmement, la question des otages. Plus la guerre continue, est-ce que les otages sont... Dans quelles conditions sont-ils? Plus on détruit tout. Moi, je suis persuadé, puis beaucoup de gens le sont, qu'il y a des otages qui ont, parmi les 100 quelques qui restent, qui ont déjà perdu la vie et qu'on ne retrouvera jamais tellement la destruction et les frappes sont nombreuses et tout ça. Donc, plus la guerre dure, plus la survie de ce gouvernement-là, qui, je le rappelle, pour rester au pouvoir, M. Netanyahou a fait un pacte du diable avec les partis qui représentent les colons israéliens, des gens extrême droite, ultra-violent, armé jusqu'aux dents dans les territoires occupés par Israël. Et puis, cette question des Juifs ultra-orthodoxes. Mmh. Ça, c'est très intéressant, Paul, parce que c'est toujours un sujet de discussion. Je connais Israël depuis des décennies. Les ultra-orthodoxes ont, en vertu d'une sorte d'entente, comme ce sont des religieux dont la vie, surtout pour les jeunes, par exemple, se passe à étudier le Talmud, les écrits religieux et tout ça, on a dit ils seront exemptés du service militaire qui est obligatoire en Israël. Mais maintenant, il y a de la pression avec les soldats qui meurent. On dit que les Israéliens ont reconnu qu'ils avaient perdu plus de 600 soldats depuis le début des combats. C'est rien, tu me diras, comparativement aux morts palestiniens de l'autre côté, mais quand même, c'est important pour Israël. Alors, il y a de plus en plus de pression parmi ces manifestants là, qui disent « ça va faire cette tolérance, il faut que les ultra-religieux aillent au combat aussi et soient mobilisés dans ce qui se passe actuellement ». Et le gouvernement israélien a voulu présenter un projet de loi pour maintenir cette protection-là, maintenir cette possibilité pour les ultra-religieux de s'abstenir. Et la Cour suprême a menacé de contredire encore une fois cette Cour suprême que M. Netanyahou voulait justement boycotter ou à qui il voulait enlever des pouvoirs avant même que la guerre se déclenche. Eh bien là, la Cour suprême a dit si les ultra-orthodoxes ne veulent pas aller se battre, il faudra couper les subventions à leur yeshiva, à leurs institutions d'enseignement. Alors ça touche quelque chose de très important. Et si vraiment le gouvernement menaçait encore une fois, d'abstenir les ultra-religieux du combat. Il y a le Benny Gantz, qui est le leader de l'opposition, qui a accepté de faire partie du cabinet de guerre qui menace de s'en aller. Mais pas rien que lui, le ministre de la Défense, Yoav Gallant, qui a dit ouvertement que si ça se passait, il s'en irait lui aussi. Donc, on voit un gouvernement là qui a l'air d'un gouvernement en fin de vie. Monsieur Netanyahou, d'ailleurs, qui, en parenthèse, en fin de semaine, s'est fait opérer pour une hernie, donc qui a eu un problème de santé en fin de semaine, donc qui est dans une situation extrêmement difficile.
Parlons de la Turquie, c'est intéressant parce qu'on se dit le président Erdogan est au pouvoir, solidement installé. Oui. Par contre, aux élections municipales, il a subi la défaite.
Ah, une défaite Paul, extrêmement importante. Les 5 plus grandes villes du pays sont passées ou restées dans l'opposition, au point que lui, le président Erdogan, a, dans son discours, a concédé, bien sûr, cette défaite-là ou la victoire de l'opposition. Il a dit que c'est un point tournant qui nous force à réfléchir. Alors, on le voit, l'idée. Il faut se rappeler qu'en mai dernier, donc il y a presque un an, il avait gagné une victoire importante contre l'opposition, parce que l'opposition était divisée. On avait l'impression, après ça, que l'opposition avait été complètement écrasée par cette défaite-là. Puis là, on voit qu'il y a un sursaut, et il pourrait même y avoir une possibilité où la situation est tellement friable, l'opposition a tellement repris de pouvoir, que l'opposition forcerait une élection anticipée. C'est une grande question importante. Je rappelle, c'est important de le rappeler, que la Turquie est un pays extrêmement important. C'est la deuxième plus grande armée au sein de l'OTAN après les États-Unis. Donc, c'est un joueur important dans l'échiquier mondial, surtout avec le conflit en Russie. Et on dit que le président, et c'est une des raisons qui rend l'opposition furieuse, c'est que ces derniers temps, il a commencé à élaborer des plans pour modifier la Constitution pour pouvoir. On connaît ces scénarios-là. Ouais. Partout dans le monde, il y a beaucoup de ça. En principe, il a un deuxième mandat jusqu'en 2028 et pour peut-être avoir un troisième mandat. Donc, c'est peut-être une des raisons qui pourrait éventuellement mener jusqu'à une situation où il serait forcé de déclencher des élections hâtives. À surveiller, c'est très important.
Et on termine avec l'homélie pascale du pape, donc, à Saint-Pierre de Rome. Il a surpris pas mal tout le monde quand il a parlé de ces conflits à travers le monde qui sont oubliés.
Et c'est comme s'il avait décidé de pas faire d'homélie, puis il est revenu, puis il s'est mis à parler des conflits dans le monde. Il a parlé de l'Ukraine, où il demande un échange complet de prisonniers entre la Russie et l'Ukraine. Il a parlé de Gaza, où il demande la libération des otages en échange d'une aide humanitaire totale. Il a dit, puis c'est assez émouvant de voir cet homme extrêmement âgé qui dit « On voit dans les yeux des enfants leur souffrance. » Tu sais, quand on voit des images de Gaza, et on voit qu'il est assez ému. Et puis, Paul, tu sais, moi, c'est quelque chose que j'aime toujours faire une fois par année, c'est rappeler les conflits qu'on oublie tout le temps. Mm-hmm. Et c'est ça qu'il a voulu faire. C'est pour ça que je trouve ça important. Il a parlé, entre autres, j'en mentionne un, puis je vais mentionner rapidement les autres qu'il a mentionnés après, mais le Soudan. Le Soudan, on oublie ça, là, mais il y a une guerre civile depuis un an au moins. Il y a 25 millions de personnes dont on dit qu'elles ont besoin d'aide humanitaire. C'est la moitié de la population, d'aide alimentaire, entre autres. Il y a 10 millions de déplacés dans le pays. Ça, c'est un record mondial. Il n'y a pas 10 millions de personnes dans un pays dans le monde qui actuellement sont déplacées à cause de la guerre, même pas en Ukraine, parce que le nombre a été réduit depuis le début. Et puis les conflits qu'il a menacés. Qu'il a mentionné, c'est important. Le Liban, où il y a encore des gens qui souffrent de la guerre. La Syrie, on vient d'en parler. Haïti, évidemment, un conflit qu'on oublie, où le Canada est très en retard là, dans l'évacuation de ses ressortissants. Le Myanmar, c'est-à-dire la Birmanie, avec surtout l'affaire des Rohingyas, mais il y a une guerre civile là en puissance qui est importante. Toute la région du Sahel, les pays de l'Ouest africain, où il y a eu je sais pas combien de coups d'État au cours des deux dernières années, extrêmement important sur la question des droits de l'homme. Et puis, il a mentionné aussi l'Azerbaïdjan, où il y a tout ce problème du Haut-Karabakh, où il y a des Arméniens qui ont été poussés, plus de 100 000, à retourner, à s'en aller en Arménie, à fuir ce territoire-là qu'ils occupaient légalement. Alors, ça a été le mot du pape, et je pense que c'est important de rappeler ces conflits-là.
Merci beaucoup, Jean-François. Juste une précision aussi, Jonathan m'a texté. Il a eu finalement un retour du cabinet de la ministre Mélanie Joly. Et on nous dit qu'elle était accompagnée d'un agent de sécurité ou quelqu'un, d'une personne pour assurer sa protection. Quand on regarde les images, on se demande où il était. C'était nettement insuffisant, ou en tout cas, il y a un problème de formation, parce que c'est pas normal que quelqu'un puisse s'approcher comme ça de la ministre des Affaires étrangères et qu'elle soit comme prise pour se débattre puis de se sortir de cette mauvaise situation.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute.
On va parler santé. Je voyais la semaine dernière une étude qui montre que le cancer colorectal touche de plus en plus de jeunes personnes. On sait que Québec offre maintenant le dépistage du cancer. À compter, depuis les dernières semaines, ça s'adresse pour les gens de 50 à 74 ans. Mais on se dit, mais pourquoi tant de jeunes maintenant? Ce serait une croissance de 2% par année. Développe ce type de cancer. Docteur Michael Bensoussan est avec nous. Il est gastro-entérologue à l'hôpital Charlemagne. Docteur Bensoussan, bonjour.
Bon matin, cher Khan.
Alors, comment se fait-il qu'on a une augmentation quand même importante du nombre de cas chez les plus jeunes?
Alors ça, c'est une excellente question et pour l'instant, la réponse reste scientifiquement assez discutée. Mais ce qui est sûr, c'est que les dernières publications qui maintenant sont rendues de plus en plus au grand public, hein, vous faites référence à un grand article qui a fait énormément de bruit dans la communauté qui est sorti dans le New York Times la semaine dernière, c'est que globalement, on peut considérer qu'on a une augmentation des cancers sur les 20 dernières années qui est de l'ordre de 30% chez les jeunes. Alors chez les jeunes, ça va être chez les personnes qui ont moins de 50 ans et même chez les moins de 40 ans. Ça, c'est quelque chose sur le terrain qu'on constate nous aussi. Moi, je suis gastro-entérologue, donc je suis impliqué dans tout ce qui est le cancer colorectal ou encore les cancers de l'estomac ou du pancréas. Et force est de reconnaître qu'on a de plus en plus d'histoires comme ça qui sont horribles. Parce que, notamment quand on découvre des cancers chez quelqu'un de 40 ans ou de moins que ça, les cellules cancéreuses impliquées ont tendance à être plus agressives que quand ça arrive chez quelqu'un d'âgé. Alors, les hypothèses de pourquoi, elles sont nombreuses, mais je vous dirais que les registres médicaux qu'on a à travers le monde sont assez formels sur quelque chose, c'est que ça n'arrive que dans nos pays. Nos pays, c'est-à-dire les pays de l'hémisphère nord, les pays riches, les pays du G8. Donc ça n'arrive qu'au Canada, aux États-Unis, en Europe. C'est pas une augmentation qu'on constate en Amérique du Sud, en Afrique ou en Asie, par exemple. Donc, très clairement, on pense que c'est un facteur extérieur, un facteur exogène qui est lié à notre mode de vie et qu'on n'a pas encore particulièrement identifié.
Mais ça veut dire c'est quoi? C'est notre mode de vie dans le sens, c'est notre sédentarité, c'est notre alimentation, c'est l'ensemble de ces facteurs-là qui sont propres aux sociétés comme nord-américaines?
Alors voilà, si on reste focusé sur le cancer colorectal, qui est un problème de santé publique absolument majeur au Québec, on est en train de parler du troisième tueur au pays, avec environ 3000 personnes par an au Québec. Là, on est quand même sur un cancer dont on a déjà identifié les facteurs de risque depuis très longtemps, qui vont être une alimentation trop riche, trop grasse, trop calorique, la sédentarité, le tabac. Alors rien qu'à ça, vous le soulignez vous-même, ces dernières années, on peut noter que ça va pas tellement mieux sur ce qui est de l'alimentation trop riche et trop grasse, et y a comme une réaugmentation de la consommation tabagique qui avait solidement baissé ces 30 ou 40 dernières années. Donc, on pourrait mettre l'augmentation du cancer colorectal là-dessus, ou se dire que si ça apparaît chez des gens plus jeunes que 50 ans, ça pourrait être lié à ça. Mais l'augmentation est tellement forte, et la courbe, en fait, est tellement hyperbolique, elle n'est pas linéaire, qu'en fait, il doit y avoir autre chose. Autre chose, est-ce que ce serait un polluant? On le sait pas. Pour ce qui est du cancer colorectal, ce qui plaît à croire et qui est vraiment l'hypothèse numéro un pour l'instant, ce serait la manière dont on s'alimente et je dirais l'alimentation hyper transformée. Parce que vous savez, monsieur Arcand, dans l'alimentation ultra transformée industrielle, il y a tellement d'additifs, il y a tellement de produits chimiques, il y a tellement de produits qui sont absolument pas naturels et qui viennent pas de la nature et puis qui se combinent entre eux dans les produits, que possiblement qu'on a sous-estimé pendant les années 80-90 la toxicité des mises en conditionnement de ces aliments-là et qu'on est en train de constater qu'une alimentation ultra transformée dans les supermarchés, c'est peut-être ça qui est la cause de tout ça. C'est en tout cas la piste qui est privilégiée par la science, sans qu'il y ait aucune preuve formelle au moment où je vous parle.
Vous avez dit tantôt que quand un cancer colorectal est dépisté chez des gens de 40 ans, par exemple, et moins, ce sont des cancers qui sont très fulgurants. Québec a élargi, je l'ai dit tantôt, le dépistage aux gens de 50 ans et plus. Est-ce que vous pensez qu'on devrait l'élargir aux 40 ans et plus maintenant et le plus vite possible?
Alors pour vrai, c'est vrai qu'il faut aller vite parce que c'est ce qu'ils sont en train de faire aux États et c'est ce qu'ils sont en train de faire en Europe. C'est pas que Québec a élargi, monsieur Arcand, sa politique de dépistage, c'est que depuis le mois de février, le gouvernement Dubé, le ministre Dubé a annoncé le début d'un programme de dépistage du cancer colorectal national au niveau du Québec, un peu à l'image de ce qui se faisait pour le cancer du sein. Avant ça, ça n'existait pas. Avant ça, il fallait soi-même aller voir le médecin, etc., et lui demander le test dans les selles. Parce que pour rappeler à vos auditeurs et vos auditrices ce matin, ce programme-là, ça veut juste dire que tous les Québécois et les Québécoises qui ont 50 et 74 ans peuvent aller sur Clic Santé s'inscrire eux-mêmes et ils vont recevoir à la maison le petit kit avec la lettre explicative de comment aller faire un test dans les selles pour voir s'il y a du sang invisible et aller déposer ça dans les centres de vaccination qui leur seront indiqués. Mais pour l'instant, On n'a pas envoyé une lettre, un courrier ou un email à tous les Québécois et Québécoises de 50-74 ans. On commence, on est dans les balbutiements de ce programme de dépistage qui existe ailleurs dans d'autres pays depuis des années. Alors pour répondre plus précisément à votre question, Monsieur Arcan, oui, aux États-Unis, ils sont en train clairement de dire qu'ils vont diminuer ça à 45 ans. En Europe et notamment en France, c'est imminent aussi qu'ils le fassent, qu'ils vont commencer ça à 45 ans. Donc je vous dirais que la logique, évidemment, ça va être d'implanter et de passer la deuxième vitesse de ce programme québécois le plus vite possible pour rattraper tous les Québécois de 50 à 74 ans. Puis dès que tout ça sera rodé et bien mis en place, oui, me semble-t-il qu'il faudra passer à 45 ans parce qu'il y a des histoires dramatiques à ce moment-là qui seront évitées. Le plus tôt on arrive dans une coloscopie à trouver un polype, c'est-à-dire au moment où c'est bénin et où le cancer n'est pas encore là, ce qui est le cœur de mon métier, le mieux, on sauvera des milliers de vies au Québec. Si le programme du dépistage est fait comme du monde, on pourrait sauver, M. Arcan, jusqu'à 2000 Québécois, Québécoises par an au Québec. Ça, c'est les vrais chiffres.
Mais est-ce qu'on a la capacité terrain de faire ça? Dans le sens où, si je vais sur clic, je fasse la première étape, on me dit que c'est positif, mon temps d'attente pour avoir une coloscopie, est-ce que c'est long? Est-ce qu'il n'y a pas un potentiel qu'on se retrouve avec beaucoup de cas et que le système ne soit pas capable de les gérer?
Vous avez raison, ça c'est un vrai questionnement, mais je vous dirais que ça fait plusieurs années que le ministère est très regardant et très dur là-dessus. Quand la feuille officielle de coloscopie est remplie et puis qu'on coche cette case spécifique-là de test positif dans les selles, on a 30 à 40 jours pour faire la coloscopie, ce qui est un délai acceptable, c'est pareil à peu près dans tous les pays. Bon, je vais vous donner l'exemple que je connais le mieux, c'est mon hôpital, l'hôpital Charlemagne où on travaille, et dans la Montérégie, on est bien hors délai pour bien des affaires, mais pour cette coloscopie-là, pour l'instant, elle est faite on the spot, il y a à peu près personne qui passe entre les gouttes et qui a une coloscopie après ce délai 30 ou 40 jours. Est-ce que c'est pareil dans tous les hôpitaux du Québec? Je vous l'affirmerai pas à 100%, mais je vous dirais que globalement, pour l'instant, cet afflux-là de patients qui ont eu un test positif dans le cadre de la campagne de dépistage, on les absorbe, on les dépiste et on arrive à leur donner un rendez-vous avec le chirurgien si c'est nécessaire en temps et en heure. Donc là, l'heure n'est pas à la panique. L'heure, elle est plutôt à ce que le programme devrait toucher tous les Québécois et les Québécoises de 50 à 74 ans. Et ça, pour l'instant, c'est un enjeu avec les régions, un enjeu avec les populations allophones, un enjeu avec les personnes qui n'écoutent pas forcément les médias habituels, que ce soit le vôtre ou les autres les plus diffusés. Donc là, par contre, il va falloir que la communication, me semble-t-il, passe la seconde et passe la seconde rapidement.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Je pense que le ministre le sait. Merci, M. Arthur.
Au revoir. Bonne journée. Docteur Michael Bensoussan est gastro-entérologue à l'hôpital Charlemagne.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.